Chapitre 8. Stratégie. La brume était inexorable. Même les jours où il ne pleuvait pas, tout dégouttait d'une constante condensation. Les vêtements qu'on mettait à sécher dans la coquerie se couvraient simplement de buée. Les habits dans le sac marin d'Althea étaient aussi humides que la couverture de laine qu'elle retira de sa couchette. Tout sentait l'aigre et le moisi. Au matin, elle s'attendait presque à peigner de la mousse sur ses cheveux. Eh bien, en tout cas, on aurait un peu plus de place à présent. Elle avait débarrassé les affaires de la voie et transportait les siennes aujourd'hui dans la cabine du second. La promotion était traditionnelle et lui revenait de droit. Brachen avait nommé Haff lieutenant. Celui-ci paraissait enchanté de son nouveau grade. Et l'équipage, en général, approuvait cet avancement, ce qui était très bon signe.
« La pluie et la brume ne cessent jamais dans ces maudites îles ?»
demanda Ambre en pénétrant dans la minuscule cabine. L'humidité emperlait ses cheveux et ses cils, l'eau s'égouttait des manchettes de sa chemise.
« En été, mais pour le moment c'est comme ça, à moins qu'il pleuve assez fort pour dégager le ciel. »
« Ce serait presque mieux que cette humidité constante.
J'ai grimpé au mât pour voir. » J'aurais aussi bien fait de me fourrer la tête dans mon sac.
Comment font les pirates pour bouger par un temps pareil?
Il n'y a ni soleil ni étoile pour se diriger.
Espérons qu'ils ne bougent pas. Je n'aimerais pas qu'on en rencontre un dans la brume.
Tâche de penser qu'elle nous cache aux yeux ennemis.
Mais elle nous les cache à nous tous autant.
Comment apprendrons-nous que Kenith revient à partage si on ne peut même pas voir l'île?
Il mouillait depuis la veille dans une petite crique abritée. Althea savait ce que les autres ignoraient. Il mouillait là non pour attendre Kenith, mais pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être de leur plan. La nuit dernière, claquemurés dans la chambre du capitaine, ils avaient envisagé différentes solutions. Brachen n'était guère optimiste.
« Tout est fichu », avait-il dit d'un ton lugubre, les yeux fixés au plafond au-dessus de sa couchette.
J'aurais dû prévoir que la voie ferait quelque chose de ce genre. Il a démoli tout espoir d'effet de surprise.
Kenith sera prévenu et dès qu'il nous repérera, il passera à l'attaque.
Maudit la voie. J'aurais dû lui donner la grande cale dès que j'ai soupçonné qu'il fomentait une mutinerie.
Ça aurait été bon pour le moral,
avait murmuré Althea blottie dans ses bras. Elle était allongée à côté de lui sur la couchette, la tête posée sur son épaule. Elle sentait contre elle la chaleur de son corps nu. La lumière onctueuse de la lanterne faisait des ombres mouvantes sur la cloison et l'incitait à étreindre simplement Brachen et de s'endormir à ses côtés. Elle promenait machinalement les doigts le long de ses côtes sur la cicatrice laissée par le coup d'épée du pirate.
« Arrête !»
avait-il maugré, irrité en s'écartant.
« Arrête de me distraire, aide-moi à réfléchir !»
Elle avait poussé un long soupir.
Tu aurais dû me dire ça avant qu'on se couche.
Je devrais concentrer toute mon attention pour trouver le moyen de reprendre la vivacité à Kenith, mais je ne sais pas pourquoi, ici, avec toi.
Elle lui avait caressé la poitrine et le ventre, et les pensées de Brachen suivaient sa main. Il avait roulé vers elle.
Bon, alors tu veux renoncer? Rentrer à Terrilville et laisser les choses en l'état?
J'y ai songé.
Admit-elle.
Mais je ne peux pas. J'ai toujours cru que Vivacia serait notre principal allié quand on essaierait de la récupérer. J'avais compté qu'elle le défierait et prendrait notre parti. Maintenant qu'on a appris que Yémin est vivant, qu'il se trouve bien à bord et qu'ils semblent tous deux apprécier Kenith, je ne sais plus que penser.
Mais je ne peux pas l'abandonner comme ça, Brach. Elle fait partie de ma famille. La Vivacia est mon navire. Elle m'appartient comme elle n'appartiendra jamais à personne.
L'abandonner aux mains de Kenith serait comme si j'abandonnais mon enfant.
Elle est peut-être contente d'être avec Kenith aujourd'hui, mais elle finira par avoir envie de rentrer chez elle à Terrilville. Ainsi que Yéma.
Et alors, que seront-ils devenus? Des proscrits et des pirates? Leur vie serait gâchée.
Qu'en sais-tu?
Avait protesté Brachen. Un petit sourire avait incurvé ses lèvres et il avait haussé les sourcils en demandant...
« Kefria ne dirait-elle pas la même chose de toi ? Ne dirait-elle pas que tu finiras par avoir envie de rentrer chez toi et que je gâche ta vie?
Tu accepterais qu'elle essaie de te reprendre à moi pour te sauver?
Elle avait déposé un baiser au coin de sa lèvre.
Peut-être est-ce moi qui gâche ta vie. Je n'ai pas l'intention de te laisser partir, même quand on rentrera. Mais nous sommes deux adultes conscients de ce que peut nous coûter la décision.
Elle ajouta en baissant la voix.
Nous sommes tous les deux prêts à payer le prix, en trouvant que nous faisons tout de même une bonne affaire. Mais Yéma est encore un gamin, et la Vivenay venait de s'éveiller quand elle a quitté Terrilleville. Je ne peux pas renoncer à eux. Il faut au moins que je les voie, que je leur parle pour savoir ce qu'il en est.
Ouais. Je ne doute pas que le capitaine Koenig nous donne le temps de leur rendre visite,
avait-il répondu sèchement.
Peut-être devrait-on retourner à Partage, faire parvenir nos cartes de visite et demander quand il reçoit chez lui.
Je sais que ça paraît ridicule.
Et si on regagnait Terrilleville?
Avait-il suggéré sérieux tout à coup.
Nous avons le Parangon. C'est un fin navire. Les Vestrit seraient toujours propriétaires d'une Vivenay qu'ils ont payée. Toi et moi, on s'épaulerait, on refuserait d'être séparés, on se marierait avec un vrai mariage à la salle du conseil. Et si les marchands nous refusent cela, eh bien, qu'ils aillent se faire voir, on ira au Ciduché et on fera nos promesses sur une de leurs pierres noires.
Elle ne put s'empêcher de sourire. Il l'embrassa et poursuivit.
On naviguerait tous les deux avec Parangon, partout. Sur le fleuve du désert des pluies et au-delà de Jamelia, dans les îles que ton père connaissait si bien, et on ferait du commerce comme lui. On gagnerait plein d'argent, et on acquitterait la dette de ta famille aux marchands des pluies. Malta ne serait pas obligée de se marier contre son gré. Kyle est mort, on le sait, donc on ne peut pas le sauver. Yéma et Vivacia n'ont pas l'air d'avoir envie qu'on les sauve.
Tu ne vois pas, Althea? Toi et moi, on pourrait simplement vivre notre vie. On n'a pas de gros besoins, et on a déjà ce qu'il nous faut. Un bon navire et un bon équipage. Toi, à mes côtés. C'est tout ce que je demande à la vie. Le destin me l'a donné, et sacré nom, je veux le garder.
Il referma ses bras autour d'elle.
« Dis-moi simplement oui, »
avait-il insisté doucement. Son haleine tiède lui caressait le cou et l'oreille.
« Dis-moi simplement oui, et je ne te laisserai plus partir. »
Du verre brisé dans son cœur.
« Non, »
avait-elle prononcé à mi-voix.
« Il faut que je tente ma chance, Brashen. Il le faut. »
« Je savais que tu dirais ça, »
avait-il gémi. Il l'avait relâché et s'était écarté. Il lui fit un sourire là.
« Alors, mon amour, que proposes-tu? Qu'on approche Koenig sous pavillon parlementaire? Qu'on l'aborde de nuit par surprise, qu'on le provoque en pleine mer, ou qu'on retourne à Partage pour l'attendre?
« Je ne sais pas, »
avoua-t-elle.
« Toutes ces solutions me paraissent suicidaires. »
Elle s'interrompit.
« Toutes, à part le pavillon parlementaire. Non, ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas folle. Écoute, Brashen, pense à tout ce que nous avons appris à Partage. Les gens de là-bas ne parlent pas de Koenig comme d'un tyran redoutable. Il est un chef bien-aimé qui a privilégié les intérêts de son peuple. Il libère les esclaves qu'il aurait pu aussi bien vendre. » Il est généreux en partageant le butin dont il s'empare. Il a l'air d'être intelligent et raisonnable. Si on allait à lui en amenant pavillon parlementaire, il comprendrait que le parti le plus sage serait de nous écouter. Que gagnerait-il à nous attaquer avant d'avoir discuté avec nous? On pourrait lui proposer de l'argent, et plus encore, la bonne volonté d'une famille au moins de marchands de Terrilleville. S'il veut sincèrement établir son royaume aux îles des pirates, il faudra bien qu'il cherche à faire du commerce légal. Pourquoi pas avec Terrilleville? Pourquoi pas avec les Vestrit?
Brashen reposa la tête sur l'oreiller.
Pour que cela soit convaincant, il faudrait coucher tout cela par écrit. Un accord verbal ne suffirait pas, il faudrait un contrat obligatoire pour les deux parties. La petite rançon qu'on lui proposera ne représentera qu'une ouverture. Des contrats commerciaux, voilà ce qui constituerait un véritable appât. Il roula la tête sur l'oreiller pour la regarder. « Tu sais qu'il y a des gens à Terrilleville qui t'accuseront de trahison. Peux-tu engager ta famille en concluant un accord avec des hors-la-loi ?»
Elle garda un moment le silence. « J'essaie de penser comme mon père l'aurait fait, » dit-elle enfin à mi-voix. Il affirmait que la marque d'un bon commerçant était l'aptitude à anticiper, à préparer le terrain de demain avec des marchés conclus aujourd'hui. « C'est avoir la vue courte, » expliquait-il, « que de pressurer les bénéfices d'un marché jusqu'à la dernière goutte. Un marchand avisé ne laisse jamais son adversaire s'en aller dans l'aigreur. Je suppose que ce Kenneth va réussir. Et alors, soit les îles des pirates deviendront un obstacle entre Terrilleville et le négoce méridional, soit elles seront une escale marchande de plus. Je crois que Terrilleville et Jamelia sont prêts de se séparer. Kenneth pourrait représenter un allié puissant pour Terrilleville, autant qu'un précieux partenaire commercial. »
Elle soupira, non de tristesse mais de résolution.
« Je crois que j'aimerais bien tenter la chose. Je ferai une ouverture, mais je dirai clairement que je ne parle pas au nom de Terrilleville. Cependant, je lui ferai comprendre que lorsqu'un marchand s'engage dans une voie, les autres ne tardent pas à suivre. Je m'exprimerai au nom des Vestrites. Il faut que je détermine précisément ce que je peux honnêtement lui proposer. J'en suis capable, Brashen, je le sais. »
Elle eut un rire bref, plein de regrets.
Mère et Kefria seront furieuses quand je le leur dirai, au début. Mais je dois faire ce que je crois être le mieux.
Brashen dessinait un cercle indolent autour d'un sein, sa main basanée sur la peau blanche. Il se pencha pour l'embrasser et lui demanda gravement « Ça ne te dérange pas que je m'occupe pendant que tu réfléchis ?»«
Brashen, je suis sérieuse !»
avait-elle protesté. « Moi aussi. » Ses mains avaient résolument glissé le long de son corps. « Très sérieux. »«
Pourquoi souris-tu ?»
Ambre interrompit sa rêverie. Elle sourit malicieusement à Althea qui sursauta d'un air coupable.
« Pour rien ?»« Pour rien ?»
répéta Jack aigrement depuis sa couchette, le bras sur le visage. Althea la croyait endormie. Maintenant, elle se redressait.
Pour rien, et ce rien, c'est ce qu'elle a de plus que nous.
Le visage d'Ambre était devenu grave. Althea se mordit la langue pour garder le silence. Mieux valait en rester là. Elle regarda Jack avec franchise. Mais Jack n'en demeura pas là.
Bon, au moins, vous ne niez pas,
fit-elle observer amèrement en s'asseyant.
« Évidemment, ce ne serait pas commode, vu que vous arrivez tard, en ronronnant comme un chaton tombé dans la crème ou en souriant toute seule avec les joues roses d'une jeune mariée. »
Elle regarda Althea et inclina la tête.
« Vous devriez lui dire de se raser pour que ses favoris ne vous irritent pas le cou comme ça. »
Althea leva involontairement une main d'un air coupable. Elle la laissa retomber et soutint le regard direct de Jack. Impossible d'éviter l'explication.
« Qu'est-ce que ça peut vous faire ?»
demanda-t-elle calmement.
« Ça me fait que c'est totalement injuste que vous preniez le poste de second en même temps que vous tombiez dans le lit du capitaine. »
Elle se leva et se campa devant Althea en la toisant.
« Il y en a qui pourraient penser que vous ne méritez ni l'un ni l'autre. »
Les lèvres de Jack étaient serrées. Althea respira profondément sur la défensive. Jack venait des six duchés. Sur un vaisseau des six duchés, une promotion controversée se réglait à coups de poing sur le pont. Jack s'attendait à la même chose ici? C'est-à-dire que si elle battait Althea sur le pont, elle pourrait prendre la place de second? Alors le sourire naturel de Jack s'épanouit. Elle donna à Althea une bourrade amicale pour la féliciter.
« Mais moi, je crois que vous méritez les deux, et je vous souhaite bonne chance. »
En haussant un sourcil et souriant plus largement, elle demanda
« Alors, c'est un bon coup ?»
Le soulagement l'étourdit. Althea se consola en constatant devant l'expression d'Ambre qu'elle n'était pas la seule à s'être laissée prendre.
« Pas mal, »
marmonna-t-elle penaude.
« Bon, je suis contente pour vous alors. Mais ne le lui faites pas savoir. Vaut mieux laisser les hommes croire que vous souhaiteriez plus. » Ça stimule leur imagination. J'ai la couchette du dessus maintenant. »
Et elle regarda Ambre comme si elle s'attendait à une protestation.
« Je t'en prie, vas-y, »
répondit Ambre.
« Je vais prendre mes outils et démonter l'autre couchette. À ton avis, Jack, on a besoin d'une table pliante ou d'espace pour se retourner ?»«
Af ne va pas s'octroyer la place libre ?»
suggéra-t-elle d'un air innocent.
« Il occupe le poste d'Altea, il devrait avoir sa couchette. »«
Désolé de vous décevoir, »
fit Altea avec un grand sourire.
« Il reste dans le gaillard d'avant avec les hommes d'équipage. Il pense qu'il faut remettre un peu d'ordre.
La Voye et ses déserteurs ont bouleversé les choses.
Af croit que ceux qui sont partis avec le second avaient peur.
La Voye l'avait convaincu qu'il devrait se liguer avec lui contre Brashen parce que s'attaquer à Kenix était du suicide. »
Jack éclata de rire.
« Comme si on ne le savait pas !»
Devant l'expression d'Altea, elle reprit un peu son sérieux.
« Pardon. Mais s'ils ne se doutaient pas depuis le début que nous n'avions pas beaucoup de chance, alors c'est qu'ils étaient idiots, et c'est tant mieux qu'on soit débarrassés d'eux. »
Elle se hissa sans effort jusqu'à la couchette qu'Altea venait de défaire, et elle s'y glissa.
« Confortable, c'est plus haut. Moi, je préfère dormir en hauteur. »
Elle poussa un soupir de contentement.
« Alors, c'est quoi le secret de Brashen ?»«
Sur quoi ?»
demanda Altea.
« Sur Kenith, sur ce qu'il lui ménage. Je parie que c'est un bon tour. »«
Oh, ça oui, en effet. »
Altea balança son sac sur l'épaule. Elle s'interdit de s'interroger sur le châtiment que ça réservait à ceux qui menaient les autres à la mort. Minxley fit la moue et reposa la tasse ébréchée sur la soucoupe dépareillée. C'était une infusion de menthe qui provenait du potager. Le bon thé noir de Jamélia avait disparu dans les flammes, comme tout ce que les Chalcédiens avaient entassé dans les entrepôts. Il se racla la gorge.
« Bon, à quoi avez-vous abouti en ce qui nous concerne ?»
Ceri le regarda posément. Elle avait pris une décision, au moins. Maintenant qu'elle était affranchie de Rodkern, jamais plus elle ne se laisserait intimider par un homme. Et encore moins par un homme qui croyait lui avoir mis la main dessus. Il n'avait donc tiré aucune leçon de la veille. Fidèle à sa parole, Tintaglia s'était envolée à la recherche du Kendri et des autres vivenefs qu'elle pourrait découvrir. En son absence, les humains s'étaient réunis pour essayer de rédiger un contrat. Au début de l'opération, parlant au nom de Ceri sans l'avoir consulté, Minxley avait insisté pour que la compagne eût le dernier mot sur le document.
« Elle représente Jamélia !»
avait-il clamé d'une voix forte.
« Nous sommes tous les sujets du gouvernorat. Nous devrions non seulement la laisser négocier avec le dragon, mais nous assigner nos rôles dans la nouvelle Terrilville. »
Le pêcheur, pelé Kelter, s'était levé pour prendre la parole.
« Sauf le respect dû à la dame, je refuse son autorité. Elle est la bienvenue si elle veut demeurer avec nous et s'exprimer en qualité de représentante de Jamélia. Mais c'est aux gens de Terrilville de régler les affaires de Terrilville. »
« Si vous lui refusez le pouvoir qui lui est dû, alors je ne vois aucune raison pour que les nouveaux marchands restent ici. »
s'était insurgé Minxley.
« Il est notoire que les premiers marchands n'ont pas l'intention de reconnaître les droits que nous avons sur nos terres et... »«
Oh, allez-vous-en !»
avait alors soupiré le tatoué.
« Ou taisez-vous et contentez-vous d'observer. Nous avons déjà assez de mal à y voir clair dans tous nos problèmes, sans avoir à nous occuper en plus de vos poses. »
Les autres l'avaient dévisagé et leur silence était éloquent. Minxley s'était dressé, menaçant.
« Je sais des choses !»
avait-il proféré.
« Vous allez regretter que je ne vous en ai pas fait part. Des choses qui rendront caduques tous vos accords ici. Des choses qui... »
Mais le reste de ces « choses » se perdit quand deux jeunes gaillards de trois navires le cueillirent littéralement et le firent sortir de la salle du conseil. Son dernier regard surpris et furieux à Ceri exprimait clairement qu'il s'était attendu qu'elle prît son parti. Ce n'avait pas été le cas. Elle n'avait pas non plus essayé d'imposer son autorité sur la réunion, mais y était demeurée en qualité de témoin, comme il avait été suggéré. Et accessoirement, un témoin qui se montrait très ferme sur les termes de la charte de Terrilville.
Elle avait des idées plus claires que les marchands sur certaines dispositions, et son érudition lui valut étonnement et respect. Peut-être commençait-il à comprendre qu'après tout, il pourrait tirer profit de sa connaissance précise des rapports légaux entre Terrilville et Jamelia. Les nouveaux marchands n'avaient pas été aussi enchantés. À présent, elle considérait leur porte-parole et le défiait de prolonger l'affrontement. Minxley interpréta son long silence comme de l'embarras.
« Je vais vous dire une chose. Vous nous avez manqué à deux reprises, et gravement. Vous ne devez pas oublier qui sont vos amis. Vous ne pouvez envisager sérieusement de soutenir l'ancienne charte qui ne nous offre rien. Vous pouvez certainement en faire davantage pour nous. »
Il remua sa tasse sur sa soucoupe.
« Après tout ce que nous avons fait pour vous, »
rappela-t-il sournoisement.
Cyril but posément une petite gorgée de tisane. Il se tenait dans le salon de la maison Restart. Les envahisseurs chalcédiens avaient incendié l'aile est, mais cette partie de la demeure était encore habitable. Elle eut un demi-sourire à part elle. Sa tasse n'était pas ébréchée. Un léger détail, mais satisfaisant. Elle ne craignait plus de l'offenser. Elle le regarda calmement. Il était temps de mettre les choses au point.
« J'ai bien l'intention de faire respecter l'ancienne charte. Bien plus, j'ai l'intention de la proposer comme fondement pour la nouvelle Terrilville. »
Elle lui adressa un sourire lumineux comme si une brillante idée lui était subitement venue à l'esprit.
« Si vous étiez prêt à vous installer sur le fleuve, les marchands du désert des pluies vous accorderaient peut-être le même statut qu'aux tatoués. Bien sûr, ils y mettront les mêmes conditions, et il faudra emmener vos enfants légitimes. » Quand ils se marieront dans des familles du désert des pluies, ils deviendront marchands à leur tour. »
Il se recula et tira un mouchoir de sa poche. Il se tamponna les lèvres avec agitation.
« L'idée même en est odieuse. Compagne, êtes-vous en train de vous moquer de moi ?»«
Pas du tout.
Je dis simplement que les soi-disant nouveaux marchands feraient mieux de s'asseoir à la table des négociations avec les autres. Il faut qu'ils comprennent que, comme tout le monde, ils vont devoir satisfaire à certaines conditions s'ils veulent être acceptés ici. »
Les yeux de Minxley flamboyèrent.
« Acceptés ici? Nous avons tous les droits d'être ici. Nous avons des chartes octroyées par le gouverneur Kosgo lui-même, qui nous attribue des terres et... »
« Des chartes que vous avez achetées par des pots de vin scandaleux et des cadeaux. Parce que vous saviez que la corruption était le seul moyen de vous procurer ces chartes? Ce qu'il ne pouvait légitimement vous accorder, vous le lui avez acheté. Ces chartes sont fondées sur la malhonnêteté et des promesses violées. »
Elle avala une autre gorgée de tisane.
« Autrement, vous n'auriez jamais consenti à payer si cher pour les obtenir. Vous avez acheté des mensonges. Nouveau marchand, Minxley. Maintenant, la vérité s'est fait jour. La vérité, c'est que les immigrants de trois navires ont parfaitement le droit d'être ici. Ils ont négocié avec les marchands de Terrilville quand ils sont arrivés. Hier soir, ils ont poussé plus loin les négociations. On leur allouera des terres, ils pourront voter au Conseil en reconnaissance de tout ce qu'ils ont fait lors de l'invasion chalcédienne. Oh, ils ne seront jamais des marchands, bien sûr, à moins qu'ils ne contractent des mariages avec les familles marchandes. Cependant, j'imagine que les marchands vont devenir une sorte de caste aristocratique honorifique. Ils ne formeront plus une véritable classe dirigeante. En outre, les familles de trois navires paraissent tenir à leur titre. Les tatoués qui choisissent de rester à Terrilville plutôt que de s'installer au désert des pluies auront la possibilité d'acquérir des terres en aidant à la reconstruction de la ville. Et avec les terres, ils obtiendront le privilège de voter et d'être sur un pied d'égalité avec les autres propriétaires terriens. »
Ah bien alors.
Minxley s'adossa à sa chaise et posa les mains sur son ventre d'un air satisfait.
« Vous auriez dû commencer par cela. Si le droit de vote et l'administration de la ville doivent dépendre de la propriété terrienne, alors nous, les nouveaux marchands, nous n'avons rien à craindre. »
« Certainement, c'est vrai.
Une fois que vous aurez acquis légalement de la terre, vous aussi serez autorisé à voter au Conseil. »
Il s'empourpra, puis son visage s'assombrit, à tel point qu'elle le crut au bord de l'apoplexie. Les mots sortirent en jet comme la vapeur d'une bouilloire.
Vous nous avez trahis.
Et comment espériez-vous être traité? Vous avez trahi le gouvernorat une fois, en amenant Kosgo à vous consentir des octrois que vous saviez illégaux. Ensuite, vous êtes venu ici et vous avez trahi Terrilleville en souillant ses côtes avec l'esclavage, en minant son économie, en sapant ses mœurs. Mais cela ne vous a pas suffi. Vous et vos affidés vouliez tout, pas seulement les terres, mais le commerce secret de Terrilleville.
Elle marqua une pause pour boire un peu de tisane, puis elle lui sourit.
Et pour cela, vous étiez prêt à trahir le gouverneur en le livrant à la mort. Vous auriez utilisé son meurtre comme prétexte pour laisser les Chalcédiens massacrer les marchands, pourvu que vous puissiez accaparer leurs biens. Eh bien, vous avez été trahi une fois par les Chalcédiens. Et quel étonnement pour vous! Mais cela ne vous a pas servi de leçon. Au contraire, vous avez cherché à me corrompre, comme vous avez corrompu le gouverneur, non avec de l'argent, mais avec des menaces. Eh bien maintenant, vous voilà une fois de plus trahi, et par moi. Si on peut appeler trahir, défendre ce en quoi j'ai toujours cru.
D'une voix très raisonnable, elle poursuivit.
Les nouveaux marchands qui travailleront avec les gens de trois navires et les esclaves à rebâtir la ville se verront allouer des terres. C'est ce que les citoyens ont eux-mêmes décrété sans que je les influence. C'est ce que vous vous verrez proposer de mieux. Mais vous n'accepterez pas, car votre cœur n'est pas ici. Il n'y a jamais été. Vos femmes et vos héritiers ne sont pas ici. Terrilleville, pour vous, représentait un endroit à mettre au pillage. Cela n'a jamais été votre pays. Vous n'avez jamais envisagé d'y refaire votre vie.
Et quand la flotte jamélienne arrivera, que se passera-t-il?
Demanda-t-il.
Les oiseaux envoyés là-bas ont informé les Jaméliens qu'il fallait s'attendre à un coup perfide des premiers marchands contre le gouverneur. Et voilà, nous avions raison, et au-delà de ce que nous pensions, vos amis marchands, ce sont eux qui ont envoyé le gouverneur à la mort.
Elle rétorqua d'une voix froide.
Vous avez l'audace d'admettre la part que vous avez prise dans le complot contre le gouverneur, puis de me menacer des conséquences?
Elle secoua la tête avec un scepticisme altier.
Si jamais Jamélia avait dû armer une flotte contre nous, elle serait déjà là. Ou je me trompe fort, ou ceux qui comptaient faire voile vers le nord et piller Terrilleville ont découvert qu'ils devaient rester chez eux pour protéger leurs biens. Si cette flotte annoncée arrive jamais, je doute qu'il se passe grand-chose. Je vous l'assure, je suis bien au fait de l'état des finances à Jamélia. La mort d'un gouverneur et la menace d'une guerre civile pousseront la plupart des nobles à garder leur fortune et leur force à portée de main. Je sais ce qu'espéraient les conspirateurs. Vous avez cru que vos partenaires jaméliens viendraient avec leurs navires et vous livreraient Terrilleville. Sans doute avez-vous jugé avisé de disposer en dernière ressource de cette défense contre les Chalcédiens au cas où ils se montreraient trop voraces. C'est ce qui est arrivé, et bien plus tôt que vous ne vous y attendiez.
Elle poussa un petit soupir et se servit une autre tasse de tisane. Avec un sourire mondain, elle agita le pot d'un air interrogateur, puis interpréta le silence indigné de Mingsley comme un refus. Elle reprit son exposé.
« Si jamais cette flotte parvient ici, elle sera reçue avec diplomatie. On lui réservera un accueil cordial dans un port bien fortifié. Elle trouvera une ville en pleine reconstruction après une attaque injustifiée des Chalcédiens. Je vous suggère de considérer la position des nouveaux marchands à Terrilleville selon un point de vue entièrement nouveau. Que ferez-vous si le gouverneur n'est pas mort? Car si le dragon dit vrai en affirmant que Malta Vestrit est vivante, peut-être alors le gouverneur est-il aussi en vie? Ce serait assez inconfortable pour vous. Surtout maintenant que je sais de votre propre aveu qu'il y a eu un complot des vôtres contre lui. Je ne prétends pas que vous soyez personnellement compromis, naturellement. »
Elle remua machinalement un peu de miel dans sa menthe.
« Dans tous les cas, si flotte il y a, elle sera accueillie non par une démonstration de force ou des désordres internes, mais avec courtoisie et diplomatie. Eh bien ?»
Elle inclina la tête vers lui et lui sourit gracieusement.
« Nous verrons. Oh, Vous ai-je rappelé que cette flotte jamélienne, pour arriver jusqu'ici, doit d'abord traverser non seulement les îles des pirates, mais aussi croiser les navires de patrouille Kelsédia? Ce qui, je crois, équivaudra à longer de près une ruche d'abeilles enragées. Si la flotte nous atteint, elle sera peut-être enchantée de trouver un port paisible et un gardien dragon. Elle remua encore sa tisane et demanda sur un ton désinvolte « Ou bien avez-vous oublié Tintaglia ?»«
Vous le regretterez !»
Minxley se leva en faisant tinter la vaisselle et les couverts.
« Vous auriez été élevé au pouvoir avec nous. Vous auriez pu retourner à Jamélia avec une fortune et passer votre vie dans un endroit civilisé et cultivé. Mais vous vous êtes condamné à rester dans ce trou avec ces rustres. Ils n'ont aucun respect du gouvernorat ici. Vous ne serez rien qu'une simple femme seule. »
Il sortit en fulminant et claqua la porte derrière lui.
Rien qu'une simple femme seule.
Il sortit en fulminant et claqua la porte derrière lui.
Rien qu'une simple femme seule.
Minxley devait ignorer ce que l'imprécation qu'il avait lancée était pour Ciri une bénédiction. Kendry revint au port toute voile dehors, avec un équipage réduit qui, malgré cela, avait taillé de l'avant. Reyn Rouprous le guettait assis sur la carcasse du toit d'un entrepôt partiellement détruit. Là-haut, Tintaglia décrivit un cercle, vif argent. Le dragon effleura brièvement l'esprit de Reyn en passant au-dessus de sa tête.
« Ophélie, c'est comme ça que vous l'appelez, elle arrive aussi !»
Il observa la manœuvre d'accostage et d'amarrage au quai endommagé. La vive nef avait changé. L'aimable et juvénile figure de proue n'agita pas les bras pour saluer, n'applaudit pas, ne poussa pas de cris de joie en retrouvant son port d'attache. Au contraire, il avait les bras croisés sur la poitrine et le visage fermé. Reyn devinait ce qui s'était passé. Tintaglia avait révélé à Kendry ce qu'il était vraiment. Au cours des dernières traversées qu'il avait effectuées à bord du Kendry, il avait pris conscience avec malaise du dragon tapis sous la personnalité du navire. Maintenant, tous les souvenirs avaient dû éclore. Reyn fut peu à peu saisi d'une terrible certitude. Il était condamné à constater ce changement chez toutes les vives nefs. Devant les visages fermés ou affligés, il aurait à regarder en face les méfaits de ses ancêtres. Sciemment ou non, ils avaient enlevé la vie aux dragons pour en animer leur bateau, ils avaient condamné leur esprit à une éternité asexuée et privée d'elle. Il aurait dû se réjouir que l'Ophélie l'eût emporté sur les Chalcédiens. Mais il ne voulait pas être présent quand Grag Ténira viendrait accueillir le navire qu'il avait aimé toute sa vie. Quant à sa place, il se heurterait à un dragon hostile. Il n'avait pas nui seulement à l'espèce des dragons. Il allait bientôt voir aussi dans les yeux de ses amis le préjudice causé aux familles des Vivenefs. Trop de changements, trop de vicissitudes, se dit-il. Il n'arrivait plus à démêler ce qu'il ressentait. Il aurait dû être joyeux. Malta était vivante. Terrilville avait conclu une alliance solide et avait rédigé un contrat où le dragon devait apposer sa marque. Les Chalcédiens étaient vaincus, au moins pour le moment. Et un jour, si tout allait bien, il y aurait une nouvelle cité des anciens à fouiller et à étudier. Cette fois, il en serait le responsable. Il n'y aurait pas de pillage, pas de vol de trésors. Il aurait Malta à ses côtés. Tout irait bien. Tout serait apaisé. Il ne savait pourquoi, il ne pouvait pas y croire. La brève présence de Malta qu'il avait sentie à travers Tintaglia avait agi sur lui comme le fumet d'une viande chaude sur un homme affamé. Malta restait une éventualité qui ne suffisait pas à assouvir son désir. En entendant un bruit dans le bâtiment en dessous, il jeta un coup d'œil, s'attendant à voir un chien errant ou un chat. Mais c'était Selden, qui se frayait un chemin à travers les décombres.
« Sors de là !»
s'écria-t-il irrité.
« Tu ne vois pas que le toit peut s'effondrer sur toi ?»«
C'est pour ça, évidemment, que vous vous êtes installé dessus ?»
répondit Selden, nullement impressionné.
« Il me fallait un endroit d'où je pouvais surveiller le port et guetter le retour de Tintaglia. Je descends tout de suite. »«
Bien. » Tintaglia est partie faire sa toilette, mais elle revient bientôt à poser sa marque sur le parchemin du conseil. Elle veut qu'on charge immédiatement le Kendry avec du matériel, qu'on embarque les constructeurs et qu'ils repartent sur le fleuve pour que le travail puisse commencer.
Et on le trouve où, ce matériel ?
Sans qu'il règne sur un ton ironique.
Elle ne s'en soucie pas trop. J'ai suggéré qu'on commence par embarquer des ouvriers, que le Kendry relâche à Trois-Nous pour prendre des gens qui connaissent bien le fleuve, puis qu'ils rejoignent le lieu du dragage afin d'évaluer le travail à accomplir.
Rein ne lui demanda pas comment il se faisait qu'il en sût autant. Mais il avança avec précaution vers les corniches du bâtiment. Le soleil d'hiver allumait de reflets les écailles sur les sourcils et les lèvres de Selden.
« Elle t'a envoyé me chercher, non ?»
questionna Rein en sautant sur le sol.
« Elle veut s'assurer que je suis bien là ?»«
Si elle avait voulu que vous soyez là, elle aurait pu vous le dire elle-même. Non, c'est moi qui souhaitais le vérifier. Pour que vous lui rappeliez sa promesse. Laissée à elle-même, elle se préoccupera d'abord de ses serpents et des cocons de dragons survivants. S'il ne tenait qu'à elle, il faudrait attendre des mois avant qu'elle parte à la recherche de Malta.
« Des mois ?»
fit Rein pris d'un accès de rage.
« On devrait partir aujourd'hui. »
Il fut envahi d'une fatale certitude. Cela nécessiterait plusieurs jours. La seule signature du contrat prendrait déjà une journée entière. Ensuite, il faudrait choisir les hommes qui s'embarqueraient sur le Kendry et il y aurait l'avitaillement.
Après tout ce que Malta a fait pour la délivrer, on imaginerait qu'elle ressente au moins une once de gratitude.
Le garçon fronça les sourcils.
Ce n'est pas qu'elle n'aime pas Malta, ni vous. Elle ne pense pas du tout de cette façon. Les dragons et les serpents sont bien plus importants pour elle que les gens. Lui demander de choisir entre venir au secours de sa race et sauver Malta, c'est comme si vous lui demandez de choisir entre Malta et un pigeon.
Il marqua une pause.
Pour Tintaglia, les humains se ressemblent tous et nos soucis lui paraissent insignifiants. C'est à nous de les rendre importants à ses yeux. Si elle réussit dans ses projets, d'autres dragons vont partager notre monde. Mais eux, ils considéreront que c'est nous qui partageons leur monde. Mon grand-père disait toujours « Établis dès le départ tes rapports avec quelqu'un tel que tu désires qu'ils se poursuivent. » Je pense que c'est vrai aussi avec les dragons. Il faut qu'on définisse dès aujourd'hui ce qu'on espère d'elle et de ses semblables.
Mais attendre des jours avant de partir...
Il vaut mieux attendre quelques jours qu'attendre pour toujours,
rétorqua Selden.
Nous savons que Malta est vivante. Vous avez l'impression que sa vie est menacée?
Rein soupira.
Je ne saurais le dire, admit-il à son corps défendant. J'ai senti sa présence, mais... c'était comme si elle avait refusé de faire attention à moi.
Ils retombèrent tous deux dans le silence. Il faisait froid, mais le temps était superbe. On percevait des voix, des marteaux résonnaient partout dans la ville. Tandis qu'ils parcouraient ensemble les rues, Rein remarqua que l'atmosphère avait déjà changé. L'activité bourdonnante révélait clairement les espoirs et la foi qu'on avait dans l'avenir. Les gens de Trois Navires et les Tatoués travaillaient aux côtés des premiers et des nouveaux marchands. Rares étaient les boutiques qui avaient rouvert leurs portes, mais on voyait déjà au coin des rues des gamins qui vendaient des coquillages et des légumes sauvages. La ville paraissait plus peuplée. Il devina que le flux de réfugiés avait fait demi-tour et que ceux qui avaient fui vers les quartiers éloignés revenaient. La marée avait changé. Terrilville allait renaître de ses cendres.
« Tu m'as l'air d'en savoir long sur les dragons, »
dit Rein.
« D'où te viennent ces connaissances soudaines ?»
Au lieu de répondre, Selden posa à son tour une question.
« Je suis en train de devenir un habitant du désert des pluies, non ?»
Rein ne le regarda pas. Il n'était pas certain que le garçon avait envie de voir son visage à cet instant. Chez lui aussi, les mutations paraissaient s'accélérer. Jusqu'à ses ongles qui s'épaississaient et se racornissaient. D'ordinaire, ces transformations n'intervenaient chez les habitants du désert des pluies qu'à un âge beaucoup plus avancé.
« On dirait bien. Cela te chagrine ?»«
Pas beaucoup. Je ne crois pas que cela plaise à ma mère. »
Avant que son compagnon ait pu réagir, il poursuivit.
Je rêve comme un habitant des pluies, maintenant. Cela a commencé la nuit où je me suis endormi dans la cité. Vous m'avez réveillé quand vous m'avez retrouvé. Je ne pouvais pas entendre la musique alors comme Malta, mais je crois que si j'y retournais, je l'entendrais maintenant. La connaissance grandit en moi, et je ne sais pas d'où elle vient.
Il fronça ses sourcils écailleux.
Cette connaissance a appartenu à quelqu'un, mais j'ignore pourquoi elle descend en moi maintenant. Est-ce cela, se noyer dans les souvenirs, Reine? Un flot de souvenirs coule en moi. Est-ce que je vais devenir fou?
Reine posa la main sur l'épaule du garçon et la serra. Une épaule si étroite, si frêle, pour un tel fardeau. Pas nécessairement. On ne devient pas tous fous. Certains apprennent à nager dans le sens du courant.